7. Passons à l'horreur sociale. Nous avons déjà abordé quelques films traitant de problèmes sociaux, les comédons, le psoriasis et les poussées de pilosité de Michael Landon. Mais il existe des œuvres s'intéressant à des sujets nettement plus graves. Dans certains cas, Rollerball, Les troubles de la colère, elles tirent leurs effets de l'extrapolation logique ou satirique des tendances sociales contemporaines et ressortissent par conséquent à la science-fiction. Nous ferons l'impasse sur elles si ça ne vous dérange pas, car il s'agit là d'une danse légèrement différente de celle dont nous voulons étudier les pas. Il existe quelques films à la lisière de l'horreur et de la satire sociale. Les femmes de Stepford me semble le plus abouti. Ce film est basé sur un roman d'Ira Levin, lequel avait déjà réussi un tour de passe-passe similaire avec Un bébé pour Rosemary. Mais nous en reparlerons plus tard lorsque nous nous intéresserons à la littérature d'horreur. Pour l'instant, restons-en aux Femmes de Stepford, un film plein d'esprit sur l'avènement du MLF et sur les réactions parfois inquiétantes qu'il a suscitées chez le mâle américain. Je me suis longtemps demandé si ce film, mis en scène par Brian Forbes et interprété par Catherine Ross et Paul Apprentis, avait bien sa place dans mon étude. C'est une œuvre aussi satirique que celle de Kubrick, quoique bien moins élégante, et je vous défie de ne pas éclater de rire lorsque Ross et Prentiss vont rendre visite à leur voisin, le droguiste de la ville, un type du genre Walter Mitty, et entendre sa femme gémir à l'étage
« Oh, Frank, tu es le plus beau, tu es le meilleur, tu es le champion !»
Le roman d'Ira Levin a échappé à l'étiquette horreur, équivalente à celle de paria chez les critiques littéraires les plus snobs, parce qu'on y a vu une charge dirigée contre le MLF. Mais les cibles de cette terrifiante satire ne sont pas uniquement féminines. Levin s'attaque aussi à ces hommes qui trouvent parfaitement normal d'aller jouer au golf le samedi matin après le petit-déjeuner, pour rentrer à la maison, le plus souvent bourré, à l'heure du dîner. Si j'ai finalement décidé de parler de ce film, de le considérer par conséquent comme une histoire d'horreur plutôt que comme une satire, c'est parce que, après quelques hésitations dans le déroulement de son intrigue, il affiche franchement sa nature. C'est une histoire d'horreur sociale. Catherine Ross et son mari, interprétés par Peter Masterson, quitte New York pour emménager à Stepford, une banlieue aisée du Connecticut, un environnement qui conviendra mieux à leurs enfants et à eux-mêmes. Stepford est une petite communauté idyllique où les écoliers attendent sagement le quart de ramassage, où l'on voit chaque jour deux ou trois personnes laver amoureusement leur voiture, où on a l'impression que les dons aux œuvres de charité sont supérieurs à la moyenne nationale. Et pourtant, il se passe d'étranges choses à Stepford. La plupart des femmes y semblent un peu, disons, évaporées. Mignonnes, toujours vêtues de longues robes flottantes. Une erreur de conception, à mon avis. C'est une façon peu subtile d'attirer sur elles l'attention du spectateur, comme si on leur avait apposé sur le front un autocollant proclamant « Je suis une des femmes bizarres de Stepford ». Elles conduisent tout un break, échangent des recettes de cuisine avec un enthousiasme anormal et semblent passer le plus clair de leur temps au supermarché. Une des femmes de Stepford, une des femmes bizarres, je veux dire, se blesse à la tête dans un accident de la circulation sans gravité. Plus tard, nous l'apercevons lors d'une réception en plein air et elle ne cesse de répéter « Je dois trouver cette recette. Je dois trouver cette recette. Je dois trouver... » Le secret de Stepford est bien vite percé. Freud demandait d'une voix désespérée « Les femmes, mais qu'est-ce qu'elles veulent ?» Forbes et ses collaborateurs posent la question inverse et lui trouvent une sinistre réponse. « Les hommes, prétend ce film, ne veulent pas des femmes. Ils veulent des robots pourvus d'organes sexuels. » Il y a dans ce film plusieurs scènes amusantes, outre celle avec Frank, le champion. J'ai particulièrement apprécié la réunion entre copines organisée par Ross et Prentiss. Plutôt que d'échanger des méchancetés sur leur mari, but avoué de cette réunion, les femmes bizarres de Stepford se lance dans une discussion animée sur les lessives et les produits d'entretien. On croirait assister à un de ces spots que les fils de pub américains ont baptisé du doux nom de « 2C dans une C », c'est-à-dire « 2 connes dans une cuisine ». Mais le film quitte bien vite le domaine ensoleillé de la satire sociale pour s'engager dans des contrées plus ténébreuses. Nous sentons l'étau se resserrer, d'abord autour de Paula Prentiss, puis autour de Catherine Ross. Il y a cette scène sinistre où le dessinateur chargé de concevoir le visage des robots esquisse le portrait de Ross, levant les yeux de son carnet à dessin pour scruter son visage avec attention. Il y a le rictus affiché par le mari de Tina Louise lorsqu'un bulldozer détruit le court de tennis auquel elle tenait tant et qui va céder la place à la piscine dont il a toujours eu envie. Il y a la scène où Ross découvre son mari dans le salon de leur maison toute neuve, les larmes aux yeux et un verre à la main. Elle est plongée dans l'inquiétude, mais nous savons qu'il pleure des larmes de crocodile et qu'il a décidé de la troquer contre un mannequin à la cervelle transistorisée. Elle va bientôt perdre tout intérêt pour son hobby, à savoir la photographie. C'est lors de la dernière scène que survient l'ultime horreur du film et son trait satirique le plus dévastateur, quand la nouvelle Catherine Ross affronte l'ancienne, sans doute animée d'intentions meurtrières. Sous son négligé transparent, qui semble tout droit sorti de chez Fredericks of Hollywood, les charmants petits seins de Mrs. Ross se sont transformés en une paire d'obus de gros calibre à faire saliver un macho. Et ce ne sont plus ses seins, bien entendu. Ils sont devenus la propriété exclusive de son mari. Mais cette réplique n'est pas tout à fait achevée. Il n'y a que 2 horribles trous noirs à la place de ses yeux. Détail horrible et spectaculaire, certes, mais ce sont ses seins gonflés à la silicone qui m'ont fait frissonner. Les meilleurs films d'horreur sociale sont les moins explicites. Et les femmes de Stepford, en ne nous montrant que la surface des choses, sans se soucier de nous expliquer leurs mécanismes, est lourde de sous-entendus terrifiants. Je ne compte pas vous faire perdre votre temps en vous racontant l'intrigue de L'Exorciste de William Friedkin, un film qui exploite lui aussi le malaise engendré par l'évolution des mœurs. À mon sens, si votre intérêt pour l'horreur est tel que vous avez réussi à me supporter jusqu'ici, ça veut dire que vous l'avez sûrement déjà vu. Si la fin des années 1950 et le début des années 1960 ont marqué le lever de rideau du conflit des générations, c'est un garçon ou une fille, etc., etc., alors la période 1966-1972 a vu se dérouler la tragédie proprement dite. Little Richard, qui avait horrifié les parents en 1957 lorsqu'il dansait sur son piano avec ses mocassins en peau de lézard, semblait bien inoffensif à côté de John Lennon, qui proclamait que les Beatles étaient plus populaires que le Christ, une déclaration qui devait entraîner moult autodafés de disques. La brillantine a laissé la place aux cheveux longs que j'ai évoqués plus haut. Les parents ont trouvé de drôles de fines herbes dans les chambres de leurs fils et de leurs filles. Les idées véhiculées par le rock étaient de plus en plus troublantes. Mr. Tambourine Man semblait parler de drogue. 8 Miles High des Byrds abordait franchement le sujet. Les stations de radio ont continué de passer les disques d'un groupe dont 2 membres masculins avaient avoué leur amour. Elton John a affiché sa bisexualité sans pour autant voir chuter les ventes de ses disques. Et pourtant, moins de 20 ans auparavant, ce dingue de Jerry Lee Lewis s'était fait interdire d'antenne lorsqu'il avait épousé sa cousine âgée de 14 ans. Puis il y a eu la guerre du Vietnam. Messieurs Johnson et Nixon l'ont prolongé comme s'il s'agissait d'un grand pique-nique en Asie. La plupart des jeunes gens de ce pays n'avaient aucune envie d'y participer. « J'ai pas de querelle avec ces Kongs », a déclaré Mohamed Ali, ce qui lui a valu de se faire retirer son titre de champion. Les jeunes se sont mis à brûler leur ordre de mobilisation, à fuir vers le Canada ou la Suède, à défiler en brandissant des drapeaux du Viet Cong. À Bangor, où je vivais quand j'allais à la fac, un jeune homme fut arrêté et emprisonné pour avoir remplacé la poche revolver de son jean par un drapeau américain. « Tu trouves ça drôle, petit ?» Il y avait bien plus qu'un fossé entre ces générations. On aurait dit deux plaques tectoniques séparées par la faille de San Andreas. Deux conceptions différentes de la culture, de la vie sociale, de la civilisation. Résultat, un tremblement de temps plutôt qu'un tremblement de terre. Et c'est dans le contexte de cette guerre entre les anciens et les modernes qu'est sorti L'Exorciste, un film qui a accédé lui aussi au statut de phénomène social. Les files d'attente atteignaient des longueurs inédites dans toutes les grandes villes où il était à l'affiche, et on donnait des séances supplémentaires à minuit dans des bourgades où le couvre-feu était d'ordinaire décrété dès 19h30. Les églises organisaient des manifestations devant les cinémas. Les sociologues pontifiaient en rallumant leurs pipes. Les journaux télévisés présentaient des émissions spéciales, quand l'actualité s'avérait peu fournie. L'espace de 2 mois, tout le pays n'a parlé que de possession. En surface, le film, comme le livre, relate les efforts de 2 prêtres pour chasser un démon de la jeune Regan McNeil, une adolescente adorable interprétée par Linda Blair, qui devait par la suite subir un viol au débouchévier dans un téléfilm sordide intitulé « Born Innocent ». Mais le film traite en réalité des changements sociaux qui secouaient l'Amérique à cette époque et nous fournit un symbole idéal de l'explosion de la jeunesse. C'était un film destiné à tous les parents angoissés qui avaient l'impression de perdre le contact avec leurs enfants et ne parvenaient pas à comprendre pourquoi. Nous y retrouvons le visage du loup-garou, le couple infernal Jekyll Hyde, lorsque l'adorable et douce Regan se transforme en monstre obscène proférant, avec la voix de Mercedes McCambridge, des homélies du genre « Vous allez laisser Jésus vous baiser, vous baiser, vous baiser !» Abstraction faite de ces éléments religieux, tous les Américains comprenaient sans peine ce que leur disait ce film. Le démon qui possédait Regan McNeil aurait réagi avec enthousiasme au « Fish Cheer » de Woodstock. Un cadre de la Warner m'a récemment confié que, à en croire les sondages, le spectateur de cinéma moyen est âgé de 15 ans, ce qui explique sans doute pourquoi la plupart des films semblent affligés de ce que j'appellerais charitablement un certain manque de maturité. Pour un film comme « Julia » ou « Le tournant de la vie », on en produit une douzaine comme « Les Challengers » et « If you don't stop it, you'll go blind ». Mais il faut souligner que lorsque sort un de ces succès phénoménaux qui font rêver tous les producteurs, des films comme « La guerre des étoiles »,« Les dents de la mer »,« American Graffiti »,« Le parrain »,« Autant n'emporte le vent » et, bien entendu, « L'exorciste », il renverse toujours cette barrière des générations qui est la plaie du cinéma intelligent. Il est rare qu'un film d'horreur réussisse un tel exploit, mais « L'exorciste » fait bel et bien partie de cette catégorie. Et nous avons déjà discuté d'Amityville, dont le public s'est révélé étonnamment mûr. Parmi les films qui ont conquis ces adolescents, qui forment la majorité du public, figure l'adaptation de mon propre roman, Carrie, dont le contenu symbolique colle à merveille aux préoccupations des jeunes. Bien que, à mon sens, le livre et le film s'appuient en grande partie sur les mêmes situations sociales pour développer leurs propos horrifiques, ils présentent suffisamment de différences pour que je m'attarde quelques instants sur l'adaptation de Brian De Palma. Le livre et le film évoquent tous deux l'ambiance de films de lycée, comme « Jeunesse droguée ». Et bien que l'on remarque de l'un à l'autre quelques variations superficielles, la mère de Carrie, par exemple, apparaît dans le film comme une catholique romaine du genre traditionnaliste frappé, leur intrigue est pratiquement la même. Carrie raconte l'histoire de la jeune Carrie White, souffre-douleur de sa fanatique religieuse de mère. Sa timidité et sa façon plutôt bizarre de s'habiller lui attirent également les quolibets de ses condisciples. Elle est victime de leur part d'un ostracisme absolu. Et comme elle est douée de talents télékinétiques qui se développent après ses premières règles, elle finit par faire usage de ce pouvoir pour casser la baraque, après avoir été horriblement humiliée lors du bal de fin d'année de son lycée. De Palma a traité ce matériau avec plus de légèreté et plus d'habileté que moi, disons en gros de façon plus artistique. Dans le livre, je m'efforçais avant tout de souligner la solitude de cette adolescente, ses efforts désespérés pour s'intégrer à la société qui est par force la sienne, des efforts voués à l'échec. Si cette réactualisation de jeunesse droguée avait une thèse à soutenir, c'était la suivante. Le lycée est un lieu où règnent l'intolérance et le conservatisme. Une société dont les membres n'ont pas plus le droit de s'élever au-dessus de leurs conditions, qu'un Indien n'aurait le droit de changer de caste. Mais mon livre a également un contenu symbolique plus subtil. Enfin, je l'espère. Si les femmes de Stepford se demandent ce que les hommes attendent des femmes, alors Carrie s'intéresse à la façon dont les femmes apprennent à exercer leur pouvoir et à la peur que la femme et sa sexualité éveillent chez les hommes. En d'autres termes, quand j'ai écrit ce bouquin en 1973, j'avais quitté la fac 3 ans plus tôt, j'avais pleinement conscience de ce qu'impliquait le MLF pour les représentants de mon sexe. Mon roman, si on le lit d'un œil adulte, exprime l'angoisse du mâle devant un avenir où l'égalité des sexes sera assurée. À mes yeux, Carrie White est une adolescente martyrisée, une de ces misérables dont l'esprit est brisé dans cette fosse au serpent qu'est n'importe quel lycée. Mais c'est aussi la femme, prenant conscience de son pouvoir et, telle Samson, faisant choir le temple sur les fidèles à la fin du récit. Des considérations bien graves et bien mélodramatiques, mais elles ne sont présentes qu'en filigrane dans mon livre. Si vous ne les avez pas remarquées, je ne m'en vexerai pas. Les symboles les plus efficaces sont toujours les plus discrets. Mais peut-être ai-je trop bien caché les miens. Lorsqu'elle a critiqué le film de De Palma, Pauline Kael a jugé mon bouquin en ces termes. Un roman alimentaire et sans prétention. Une description déprimante, mais pas totalement inexacte. Le film de De Palma est plus ambitieux. Tout comme les femmes de Stepford, son Carrie est à cheval sur l'horreur et l'humour, l'un faisant constamment ressortir l'autre, et c'est seulement lorsque le récit approche de sa conclusion que l'horreur occupe le devant de la scène pour ne plus le quitter. Un peu plus tôt, nous avons vu Billy Nolan, John Travolta, excellent, lancer au flic un sourire complice, tout en cachant une canette de bière sous son volant. Une scène dans la tradition d'American Graffiti. Mais lorsqu'il massacre un cochon à coups de maillet, son sourire s'est transformé en rictus de démence. Et c'est ce genre d'évolution qui constitue le propos du film. Nous voyons 3 garçons, dont l'un, interprété par William Catt, apparaît comme le héros du film, en train d'essayer leur smoking, profitant des circonstances pour se livrer à un petit numéro comique où figurent des imitations de Donald Duck et quelques passages en accéléré. Les filles qui ont humilié Carrie dans les douches en lui jetant des tampons et des serviettes hygiéniques nous sont montrées en train de subir leur punition, à savoir une série d'exercices de gym sur un fond musical rappelant la marche des éléphants dans Le Livre de la Jungle. Et pourtant, en dépit de toutes ces scènes de la vie de lycée, qui auraient plutôt tendance à faire sourire, nous percevons une haine aveugle dirigée contre cette pauvre fille qui tente de s'élever au-dessus de sa condition. Le film de De Palma semble étonnamment jovial, mais nous sentons bien que cette jovialité est dangereuse. C'est un sourire complice qui va bientôt se transformer en rictus figé. Et n'oublions pas que ces jeunes filles en short étaient celles qui, quelques minutes plus tôt, lançaient à Carrie leur cri de « Mets-y un bouchon ! Mets-y un bouchon !» Et il y a surtout ce baquet empli de sang de cochon qui attend son heure au-dessus du podium où Carrie et Tommy, Kat, seront couronnés roi et reine de la soirée. De Palma est rusé, et il dirige à merveille ses acteurs en majorité féminin. Quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai beaucoup peiné pour parvenir à sa conclusion, m'efforçant de faire de mon mieux avec ce que je savais des femmes, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ça se voit. Je reste relativement satisfait du résultat final, que je trouve lisible et palpitant. Mais mon roman souffre d'une certaine lourdeur qui ne convient guère à un roman populaire. Une impression de Sturm und Drang dont je ne suis pas arrivé à me débarrasser. Mes personnages et leurs actes me paraissent encore justes, mais le film de De Palma a 100 fois plus de style que mon livre. Celui-ci tente de regarder en face cette fourmilière qu'est le milieu lycéen. Le regard posé par De Palma est plus oblique et plus perçant. Son film est sorti à une époque où les critiques se lamentaient de l'absence de vrais rôles de femmes dans le cinéma contemporain. Mais aucun d'eux ne semble avoir remarqué que Carrie appartient exclusivement à ces dames. Billy Nolan, dont j'avais fait un personnage aussi important que terrifiant, est réduit par De Palma à un rôle quasi secondaire. Tommy, le garçon qui invite Carrie à être sa cavalière au bal de fin d'année, était à mes yeux un jeune homme honnête, qui tentait à sa façon de lutter contre le système. Dans le film, il n'est que le pion de sa petite amie, celui grâce auquel elle tente de se faire pardonner sa participation à la scène de la douche, où Carrie est bombardée de tampons. « Je sors avec qui j'ai envie », déclara Tommy d'un ton patient. « Je t'ai demandé de venir parce que je voulais te le demander. » Au dernier instant, il se rendait compte qu'il disait la vérité. Dans le film, cependant, lorsque Carrie demande à Tommy pourquoi il l'invite à être sa cavalière, il lui lance un sourire ravageur et lui dit « Parce que tu as aimé mon poème », lequel, entre parenthèses, a été écrit par sa petite amie. Mon roman porte sur le lycée un regard classique. Comme je l'ai dit plus haut, c'est une véritable fosse au serpent. La vision de De Palma est plus originale. La société adolescente de cette banlieue aisée lui apparaît comme une matriarchie. Où que se porte le regard, on ne voit que des filles en position de pouvoir. Elles tirent les ficelles, truquent diverses élections, manipulent sans vergogne leurs soupirants. La situation de Carrie en devient doublement pitoyable, car elle est incapable d'adopter un tel comportement. Seuls les actes des autres peuvent la sauver ou la perdre. Le seul pouvoir dont elle dispose, c'est son talent télékinétique. Et le livre et le film finissent par arriver au même point. Carrie emploie ledit talent pour détruire cette société pourrie. Et si cette histoire a connu autant de succès, en librairie comme dans les salles, c'est à mon avis pour la raison suivante. La vengeance de Carrie a réjoui tous les lycéens qui se sont fait ôter de force leurs shorts en cours de gym ou casser leurs lunettes en cours de récréation. Lorsque Carrie détruit le gymnase du lycée, et lorsqu'elle rentre chez elle en continuant à semer la destruction sur son passage, une scène absente du film pour des raisons budgétaires, nous assistons à la révolution fantasmée des intouchables du milieu scolaire. 8. Il était une fois un pauvre bûcheron qui habitait avec sa femme et ses deux enfants à la lisière d'une grande forêt. Le petit garçon s'appelait Hansel et la petite fille Gretel. Ce bûcheron était fort pauvre, et il vint un temps où la famine s'abattit sur le pays et où il lui devint impossible de donner à ses enfants leur pain quotidien. Un soir, alors qu'il s'agitait sur sa couche, rongé par l'inquiétude, il soupira et demanda à son épouse « Qu'allons-nous devenir ? Comment pourrons-nous nourrir nos enfants alors que nous n'avons plus rien à manger nous-mêmes ? » Et son épouse lui répondit « Voilà ce que nous allons faire. Demain matin, à la première heure, nous emmènerons les enfants dans la partie la plus sombre de la forêt. Nous y allumerons un feu et nous leur donnerons à chacun un quignon de pain. Puis nous irons travailler et nous les abandonnerons. Jamais ils ne pourront retrouver le chemin de la maison, et nous serons ainsi débarrassés d'eux. » Jusqu'ici, nous avons discuté de films d'horreur cherchant à lier symboliquement des angoisses bien réelles, même si elles sont parfois diffuses, aux cauchemars inhérents au genre. Mais cette citation de Hansel et Gretel, un des plus sinistres contes pour enfants jamais écrits, nous amène maintenant à écarter toute caution rationnelle pour nous intéresser à des œuvres plus fortes, des œuvres traitant de peurs apparemment universelles et ne devant rien à la raison. C'est là que nous allons franchir les frontières du tabou. Et il vaut mieux que je sois franc avec vous dès le départ. Je pense que nous sommes tous des malades mentaux. Ceux d'entre nous qui ne sont pas internés cachent leur folie mieux que les autres, voilà tout. Et d'ailleurs, ils ne la cachent pas toujours très bien. Nous connaissons tous des gens qui parlent tout seuls, Des gens qui font parfois d'horribles grimaces quand ils croient que personne ne les regarde. Des gens qui éprouvent une phobie pouvant les conduire à l'hystérie. La peur des serpents, du noir, des lieux clos, des hauteurs. Sans oublier, bien entendu, ces asticots qui attendent patiemment sous terre le moment où ils participeront au grand festin de la vie. Ceux qui mangent sera un jour mangé. Quand nous allons au cinéma pour regarder un film d'horreur, nous narguons le cauchemar. Pourquoi ? Certaines des réponses à cette question sont aussi simples qu'évidentes. Pour montrer que nous en sommes capables, que nous n'avons pas peur, que nous pouvons tenir le coup. Ce qui ne veut pas dire qu'un bon film d'horreur ne nous arrachera pas un cri de temps à autre, tout comme nous poussons parfois un cri aux montagnes russes, lorsque notre wagonnet décrit une boucle de 360 degrés ou plonge dans un lac en bas d'un toboggan. Et les films d'horreur, comme les montagnes russes, ont toujours été le domaine réservé des jeunes. Quand on atteint la quarantaine ou la cinquantaine, on perd le plus souvent tout désir de se retrouver la tête en bas. Comme je l'ai fait remarquer plus haut, le cinéma d'horreur nous permet également de réaffirmer notre normalité fondamentale. C'est un cinéma essentiellement conservateur, voire réactionnaire. La vision de Freda Jackson, l'horrible femme fondante du Messager du Diable, nous confirme que, même si nous n'avons pas la classe d'un Robert Redford ou d'une Diana Ross, nous sommes quand même à des années-lumière de l'authentique laideur. Et on y va aussi pour s'amuser. Et c'est là que le sol commence à se dérober sous nos pieds, n'est-ce pas ? Car c'est une forme d'amusement plutôt bizarre. Le spectateur s'amuse de voir des gens menacés et parfois massacrés. Un critique a suggéré que, si le football américain professionnel était l'équivalent moderne des jeux du cirque, alors le film d'horreur était celui de l'exécution publique. Il est exact que le film d'horreur mythique a tendance à se passer de nuances, ce qui explique l'échec de Terreur sur la ligne. Le psychopathe, interprété de façon sensible par Tony Beckley, n'est qu'un pauvre type souffrant de sa psychose. La compassion qu'il nous inspire dilue l'impact du film comme l'eau dilue le whisky. Il nous encourage à renoncer à nos capacités analytiques d'adultes pour redevenir un enfant qui voit les choses en noir et blanc. Il est si rare que nous soyons invités à nous abandonner au simplisme, voire à la folie à l'état brut, que c'est peut-être pour cette raison que le cinéma d'horreur nous soulage autant le psychisme. On nous permet de laisser la bride sur le cou à nos émotions. Si nous sommes tous fous, alors la folie devient une question de degré. Si la folie dont vous souffrez vous pousse à découper les femmes en morceaux, à l'instar de Jack l'Éventreur ou du boucher de Cleveland, on vous enferme dans un asile. Sauf que ces deux chirurgiens amateurs n'ont jamais été capturés. Si, d'un autre côté, votre folie vous pousse à parler tout seul quand vous êtes sous pression ou à vous curer le nez dans l'autobus, alors on vous laisse tranquille la plupart du temps. Mais ne vous étonnez pas si vos proches vous invitent moins souvent à dîner. Un fou meurtrier sommeille en presque chacun de nous. Mis à part chez les saints, passés et présents, mais la plupart des saints présentent un autre type de démence. Et il faut le laisser s'exprimer de temps en temps, hurler à la lune et se rouler dans l'herbe. Tiens, tiens, je crois bien qu'on est en train de reparler du loup-garou. Nos émotions et nos terreurs forment un organisme presque indépendant du nôtre. Et nous savons que cet organisme a besoin d'exercice pour conserver sa tonicité. Certains des muscles émotionnels sont acceptés, voire exaltés par la société civilisée. Il s'agit bien entendu des émotions nécessaires à la préservation du statu quo de la civilisation. L'amour, l'amitié, la loyauté, la tendresse, autant d'émotions que nous applaudissons, autant d'émotions immortalisées par les couplets ringards des cartes de vœux Hallmark et par les vers, je n'ose pas appeler ça de la poésie, de Leonard Nimoy. Quand nous exprimons ces émotions, la société nous inonde de son approbation et de ses encouragements. Une leçon qui nous rentre dans le crâne avant même que nous renoncions aux couches-culottes. Quand un petit garçon serre dans ses bras et couvre de baisers sa chipie de petite sœur, le cercle de famille s'exclame comme un seul homme « N'est-il pas adorable ?» Suit alors une distribution de gâteaux au chocolat. mais s'il coince délibérément dans une porte le petit doigt de cette petite chipie, c'est la punition garantie. Le cercle de famille se met en colère et la fessée remplace les gâteaux au chocolat. Malheureusement, les émotions barbares refusent de disparaître et elles ont périodiquement besoin de s'exercer. D'où des plaisanteries morbides du genre « Quelle est la différence entre un camion plein de boules de bowling et un camion plein de bébés morts ?» Réponse « On ne peut pas décharger le premier avec une fourche. » Cette blague, je le précise, m'a été racontée par un gamin de 11 ans. Je suis sûr que cette vanne vous a révulsé. Mais ne vous a-t-elle pas également arraché un rire ou un sourire? Cela confirmerait alors la thèse suivante. Si nous partageons ce qu'on appelle la fraternité de l'homme, nous partageons aussi ce qu'on appelle l'insanité de l'homme. Je ne cherche pas à défendre la folie ou les plaisanteries morbides, mais seulement à expliquer pourquoi les meilleurs films d'horreur, comme les meilleurs contes de fées, réussissent à être simultanément réactionnaires, anarchistes et révolutionnaires. Mon agent Kirby McCauley adore raconter une scène du film Andy Warhol's Bad, et il la raconte avec la voix émue de l'authentique fan d'horreur. Une mère jette son bébé de la fenêtre d'un gratte-ciel. Cut sur la foule qui arpente le trottoir, nous entendons un horrible splatch. Une autre mère se fraye un chemin avec son fils jusqu'au point de chute du bébé. Le spectateur voit en fait une pastèque dont on a enlevé les pépins. « Voilà ce qui va t'arriver si tu n'es pas sage !» déclare-t-elle à son rejeton. Cette plaisanterie est aussi morbide que celle du camion plein de bébés morts, ou que celle des bébés abandonnés dans la forêt que nous connaissons sous le titre de Hansel et Gretel. Le film d'horreur mythique, tout comme la plaisanterie morbide, est chargé de faire un sale boulot. Séduire ce qu'il y a de pire en nous. Déchaîner notre morbidité, libérer nos plus bas instincts, réaliser nos fantasmes les moins avouables, et tout ceci se passe dans le noir, bien entendu. C'est pour cette raison que les bons libéraux évitent d'aller voir des films d'horreur. Personnellement, je considère que les plus agressifs d'entre eux, le zombie de Romero par exemple, vont soulever une trappe dans votre cerveau bien civilisé et jeter un panier plein de viande crue aux alligators affamés qui nagent dans les eaux troubles de notre subconscient. Mais pourquoi faire ? Peut-être pour les empêcher de sortir, mes amis. Ils restent là-dessous et ils nous fichent la paix. All you need is love, ont dit Lennon et McCartney, et je suis d'accord. Il suffit de l'amour. Tant qu'on n'oublie pas de nourrir les alligators de temps à autre. 9. Et maintenant, un mot du poète Kenneth Patchen, extrait d'un petit livre fort réjouissant intitulé « But Even So ». Allons, mon enfant. Si nous avions l'intention de te faire mal, crois-tu que nous irions rôder ici, près du sentier, dans le coin le plus sombre de la forêt? Telle est l'émotion que les meilleurs films d'horreur mythiques éveillent en nous. Et ce poème nous suggère que, par-delà son caractère agressif et morbide, le film d'horreur travaille sur nous à un niveau plus profond. Et c'est tant mieux. Car sinon l'imagination humaine serait considérablement appauvrie, se satisfaisant de films comme Vendredi 13 ou La dernière maison sur la gauche. Le film d'horreur a bien l'intention de nous faire mal, et c'est exactement pour cela qu'il rôde dans le coin le plus sombre de la forêt. En dernière analyse, le film d'horreur ne plaisante pas. Il veut vous attraper. Une fois qu'il vous aura fait retrouver le point de vue et les attentes d'un enfant, il se mettra à jouer une mélodie toute simple, choisie dans un catalogue fort restreint. Telle est la principale limite du film d'horreur, et par conséquent le principal défi qu'il lance au créateur. C'est une forme des plus restrictives. Les choses qui font vraiment peur au commun des mortels peuvent se compter sur les doigts de la main. Et quand on en arrive à ce point, toute analyse similaire à celle auquel je me suis livré dans les pages précédentes devient impossible. Ou alors sans aucun intérêt. On peut décrire les effets obtenus par le film d'horreur, un point c'est tout. Essayer d'aller plus loin serait aussi inutile que de tenter de diviser un nombre premier par un autre nombre que lui-même. Mais la nature de l'effet peut être suffisante. Certains films, tels le Freaks de Todd Browning, ont le pouvoir de nous liquéfier, de nous arracher un cri ou un gémissement de refus. Ce sont des films qui nous tiennent sous le charme quoi que nous fassions, même si nous entonnons la plus magique des incantations. Ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un film. Et ces films peuvent être évoqués en usant de cette phrase merveilleuse, l'essence des contes de fées. Il était une fois. Avant de poursuivre, nous allons nous livrer à un petit jeu. Attrapez un stylo et une feuille de papier pour noter vos réponses. Il y a 20 questions. Accordez-vous 5 points par réponse correcte. Et si votre score est inférieur à 70, vous avez encore besoin d'étudier sérieusement les vrais films d'horreur, ceux dont le seul but est de vous terrifier. Prêt ? Ok, à vous de jouer. 1. Il était une fois une dame qui était la championne du monde des aveugles, et dont le mari fut obligé de s'absenter, pour aller tuer un dragon, quelque chose comme ça, et un méchant homme du nom de Harry Roach, originaire de Scarsdale, vint lui rendre visite pendant que son mari était parti. 2. Il était une fois trois babysitters qui décidèrent de sortir pendant la nuit de Halloween, et une seule d'entre elles était encore vivante lorsque vint le jour de la Toussaint. 3. Il était une fois une dame qui vola de l'argent et alla passer une soirée ennuyeuse dans un motel perdu dans la campagne. Tout allait bien jusqu'à ce qu'arrive la maman du propriétaire du motel. Maman fit alors quelque chose de vraiment méchant. 4. Il était une fois des méchants hommes qui tripotèrent les tuyaux d'oxygène dans la salle d'opération d'un grand hôpital. Et les gens s'endormirent longtemps. Longtemps, comme Blanche-Neige. Sauf qu'ils ne se réveillèrent jamais. 5. Il était une fois une jeune fille très triste qui allait voir les hommes dans les bars parce qu'elle se sentait moins triste quand ils la suivaient chez elle. Mais un soir, elle ramena un homme qui portait un masque, et sous son masque, c'était le croque-mitaine. 6. Il était une fois de courageux explorateurs qui atterrirent sur une planète pour voir si on avait besoin de leur aide. Ils ne trouvèrent personne, mais quand ils repartirent, ils découvrirent que le croque-mitaine était à bord de leur astronef. 7. Il était une fois une dame triste qui s'appelait Eleanor et qui alla vivre une aventure dans un château enchanté. Dame Eleanor était moins triste car elle avait trouvé de nouveaux amis dans le château enchanté. Mais ses amis partirent et elle resta. Pour toujours. 8. Il était une fois un jeune homme qui voulait ramener dans son pays une poudre magique. Mais il fut capturé avant de pouvoir monter sur son tapis volant et les méchants lui prirent sa poudre magique et l'enfermèrent dans une oubliette. 9. Il était une fois une petite fille qui avait l'air adorable, mais qui était en fait très méchante. Elle enferma le concierge dans sa chambre et mit le feu à son grand lit en bois parce qu'il avait été méchant avec elle. 10. Il était une fois deux petits-enfants, comme Hansel et Gretel, et quand leur père mourut, leur maman se remaria avec un méchant homme qui faisait semblant d'être bon. Ce méchant homme s'était fait tatouer le mot « amour » sur les doigts d'une main et le mot « haine » sur les doigts de l'autre. 11. Il était une fois une dame américaine qui habitait à Londres et que l'on disait folle. Elle croyait avoir vu un meurtre dans la maison condamnée à côté de la sienne. 12. Il était une fois une dame et son frère qui allèrent déposer des fleurs sur la tombe de leur mère. Et le frère, qui était souvent méchant avec sa sœur, lui fit peur en lui disant « Ils vont t'attraper, Barbara !» Et il voulait vraiment attraper la dame, sauf que c'est lui qu'ils ont attrapé en premier. 13. Il était une fois des oiseaux qui devinrent fous et qui se mirent à tuer tous les gens, car ces oiseaux étaient victimes d'un charme maléfique. 14. Il était une fois un fou armé d'une hache qui se mit à massacrer tous les membres de sa famille dans une vieille maison irlandaise. Et quand il coupa la tête au jardinier, la tête tomba dans la piscine. C'est drôle, non ? 15. Il était une fois deux vieilles sœurs qui habitaient ensemble dans un château enchanté du royaume de Hollywood. L'une d'elles avait été très célèbre dans le royaume de Hollywood, mais c'était il y a très très longtemps. L'autre ne pouvait pas quitter son fauteuil roulant. Et savez-vous ce qui se passa ? La sœur qui pouvait marcher servit à celle qui était paralysée un rat mort pour le dîner. C'est drôle, non ? 16. Il était une fois un gardien de cimetière qui découvrit que, s'il mettait des épingles noires dans les tombes vides de son cimetière, les propriétaires de ces tombes mouraient les uns après les autres. Mais savez-vous ce qui se passa lorsqu'il enleva les épingles noires pour les remplacer par des épingles blanches ? Le film se transforma en un gros tas de merde. C'est drôle, non ? 17. Il était une fois un méchant homme qui enleva la petite princesse et l'enterra vivante. Du moins, c'est ce qu'il disait. 18. Il était une fois un homme qui inventa des gouttes magiques pour les yeux, ce qui lui permettait de voir les cartes des autres joueurs à Las Vegas et de gagner beaucoup d'argent. Il voyait aussi sous les jupes des jeunes femmes pendant les cocktails, ce qui n'était vraiment pas gentil. Mais attendez, attendez ! Cet homme continuait à voir de plus en plus de choses. De plus en plus. 19. Il était une fois une dame qui avait adopté le fils de Satan. Et il la fit tomber du haut d'une galerie avec son tricycle. Que c'est méchant ! Mais maman avait de la chance dans son malheur. Comme elle était morte, elle n'était pas obligée de jouer dans le deuxième épisode. 20. Il était une fois un groupe d'amis qui partirent faire du canoë sur une rivière magique. Et des méchants décidèrent de les punir en voyant qu'ils s'amusaient. C'était parce que ces méchants hommes ne voulaient pas que les gens de la ville viennent s'amuser dans leur forêt. Alors, vous avez trouvé les réponses ? Si je vous ai collé 4 fois ou plus, si vous n'avez vraiment aucun titre à me proposer, ça veut dire que vous avez passé trop de temps à voir des films de qualité, du genre Julia, Manhattan et La bande des quatre. Et pendant que vous regardiez Woody Allen imiter un ongle incarné libéral bien entendu, vous avez raté certains des films les plus terrifiants jamais tournés. Allez, je vous donne les réponses. 1. Seul dans la nuit. 2. Halloween, la nuit des masques. 3. Psychose. 4. Mort suspecte. 5. À la recherche de Monsieur Goodbart. 6. Alien. 7. La maison du diable. 8. Midnight Express. 9. La mauvaise graine. 10. La nuit du chasseur. 11. Terreur dans la nuit. 12. La nuit des morts vivants. 13. Les oiseaux. 14. Dementia 13. 15. Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? 16. I bury the living. 17. Macabre. 18. L'horrible cas du docteur X. 19. La malédiction. 20. Délivrance. La première observation que nous inspire cette liste de 20 films, que je pourrais adopter comme programme si on me confiait un cours sur le cinéma d'horreur viscérale de la période 1950-1980, c'est que 14 d'entre eux reposent sur une intrigue dénuée de tout élément surnaturel. 15, si on compte Alien, qui a toutes les apparences de la science-fiction, mais il relève à mes yeux du surnaturel. Je le vois un peu comme du Lovecraft dans l'espace, l'humanité allant à la rencontre des grands anciens plutôt que d'attendre qu'ils viennent à elle. Ce qui nous amène à dire, si paradoxal que ça paraisse, que les films d'horreur mythiques ont besoin d'une bonne dose de réalité pour fonctionner. Cette dose libère l'imagination de son fardeau et facilite la suspension de l'incrédulité. Le spectateur entre dans le film persuadé que, si les circonstances s'y prêtaient, tout ce qu'il voit pourrait bien se produire. Deuxième observation. Un bon quart de ces films comportent dans leur titre une référence à la nuit ou aux ténèbres. Les ténèbres, cela va sans dire, sont à la base de nos terreurs les plus fondamentales. Même si nous nous croyons investis d'une nature spirituelle, notre physiologie est similaire à celle de tous les mammifères qui rampent, courent ou trottinent. On doit se débrouiller avec les mêmes cinq sens. Il existe certains mammifères à la vue particulièrement perçante, mais nous ne sommes pas du nombre. Il y en a d'autres, les chiens par exemple, qui voient encore plus mal que nous, mais leur manque de puissance cérébrale les a obligés à développer certains de leurs autres sens d'une façon qu'il nous est impossible d'imaginer, même si nous le pensons. En ce qui concerne les chiens, il s'agit de l'ouïe et de l'odorat. Les soi-disant clairvoyants évoquent l'existence d'un sixième sens, lequel est parfois identifié à la télépathie, parfois à la précognition, souvent à Dieu sait quoi, mais si nous disposons d'un sixième sens, il s'agit sans doute tout simplement, comme si c'était simple, de notre faculté de raisonnement. Fido est peut-être capable de suivre à la trace une centaine d'odeurs dont nous n'avons même pas conscience, mais ce sale cabot n'arrivera jamais à jouer aux dames, et même pas aux morpions. Grâce à cette faculté de raisonnement, il nous est inutile d'encourager le développement des cinq sens dans notre patrimoine génétique. En fait, une partie substantielle de la population humaine est dotée d'un équipement sensoriel qui laisse pas mal à désirer, d'où l'invention des lunettes et du sonotone. Mais nos cerveaux de 747 nous aident à survivre. Tout ceci est bel et bon quand on est en train de négocier un contrat dans une salle de réunion bien éclairée ou de faire son repassage par un après-midi ensoleillé. Mais quand l'électricité est coupée pendant une tempête, on se retrouve en train de tâtonner dans le noir et de se demander où on a bien pu foutre ces satanées bougies, et la situation a bien changé. Même un 747, avec son radar et ses commandes sophistiquées, ne peut pas atterrir par tant de brouillard. Quand les lumières s'éteignent et que nous nous retrouvons naufragés dans les ténèbres, le brouillard de la réalité tombe bien trop vite à notre goût. Quand un organe des sens cesse de recevoir des informations, le sens correspondant cesse de fonctionner. Jamais à 100%, bien sûr. Même dans la pièce la plus obscure, notre œil continue de percevoir des formes indistinctes. Et même dans le silence le plus absolu, nous continuons à entendre un faible bourdonnement. Signe que nos circuits restent ouverts dans l'attente d'une réception. Avec le cerveau, ce n'est pas tout à fait pareil. Est-ce un bien ou un mal ? Cela dépend de la situation. C'est un bien si vous vous retrouvez forcé à l'inactivité pendant quelque temps. Vous pouvez mettre votre sixième sens à profit pour planifier la journée du lendemain. Imaginez ce que deviendrait votre existence si vous gagniez à la loterie, ou vous demandez ce que la jolie Miss Applewhite porte, ou ne porte pas, sous sa jupe si moulante. D'un autre côté, le fait que le cerveau ne cesse jamais de fonctionner n'est pas toujours une bénédiction. Demandez donc l'avis d'un insomniaque chronique. Quand quelqu'un m'affirme que les films d'horreur ne lui font pas peur, je l'invite à faire l'expérience suivante. Allez donc voir un film comme La nuit des morts vivants et allez-y tout seul. Avez-vous remarqué que la plupart des spectateurs de films d'horreur arrivent en couple, en groupe et parfois en meute? Ensuite, reprenez le volant. Rendez-vous dans une maison abandonnée et en ruine. Il y en a une dans toutes les villes, sauf peut-être à Stepford, mais cette cité a d'autres problèmes. Entrez, montez jusqu'au grenier. Asseyez-vous. Écoutez la maison qui craque et gémit autour de vous. Remarquez à quel point ces bruits ressemblent à ceux que pourrait produire quelqu'un ou quelque chose qui monte l'escalier. Humez l'odeur de poussière, de pourriture, de décomposition. Repensez au film que vous venez de voir. Vous êtes assis là, dans le noir, incapable de voir ce qui s'approche de vous, ce qui va peut-être poser une main sale et griffue sur votre épaule ou sur votre gorge. Paradoxalement, l'expérience des ténèbres peut conduire à l'illumination. La peur du noir est la plus enfantine des peurs. Les contes de terreur se racontent le plus souvent autour d'un feu de camp, ou du moins après le coucher du soleil, car ce qui est risible en plein jour arrache rarement un sourire la nuit venue. Tous les écrivains et les cinéastes d'horreur ont conscience de ce fait, et en font usage. C'est un des points de pression les plus vulnérables à l'horreur. Cette observation s'applique plus particulièrement aux cinéastes, bien entendu, et de tous les outils que peut employer le cinéaste d'horreur, celui de la peur du noir est peut-être le plus naturel, puisque c'est bien évidemment dans le noir qu'on regarde un film. C'est Michael Cantalupo, directeur littéraire chez Everest House, le premier éditeur de ce volume aux États-Unis, qui m'a rappelé un truc d'exploitation utilisé lors de la sortie du film « Seul dans la nuit ». Et je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager ce souvenir. Les 15 ou 20 dernières minutes de « Seul dans la nuit » sont particulièrement terrifiantes, grâce notamment aux talents d'Audrey Hepburn et d'Alan Arkin. Et à mes yeux, l'interprétation d'Alan Arkin dans le rôle de Harry Rhode Jr., le psychopathe de Scarsdale, est une des plus fabuleuses de l'histoire du cinéma, peut-être même supérieure à celle de Peter Lorre dans M. le Maudit, et à l'astuce diabolique imaginée par Frederick Knott, l'auteur de la pièce de théâtre qui a inspiré ce film. Hepburn, dans une dernière tentative désespérée pour sauver sa vie, casse toutes les ampoules et toutes les lampes de son appartement afin de se retrouver sur un pied d'égalité avec son agresseur. Malheureusement, elle a oublié une source de lumière. Mais peut-être qu'on n'aurait pas fait mieux qu'elle, vous et moi. Elle a oublié l'ampoule du frigo. Et les directeurs des salles où passait le film avaient reçu pour instruction d'éteindre toutes les lumières, à l'exception des panonceaux exit, placés au-dessus des portes. Je ne m'étais jamais rendu compte avant ce jour de la quantité de lumière présente dans une salle de cinéma, même pendant la durée du film. Les salles les plus récentes ont ces petites ampoules à faible intensité encastrées dans leur plafond. Les plus anciennes, ces flambeaux rococo accrochés au mur. Dans le pire des cas, il y a toujours la lueur venue de l'écran pour vous aider à retrouver votre siège quand vous revenez des toilettes. Sauf que les dernières minutes de « Seul dans la nuit » se déroulent entièrement dans l'appartement plongé dans les ténèbres. Le spectateur ne dispose plus que de ses oreilles. Et ce qu'entendent celles-ci, les hurlements de Miss Hepburn, le souffle torturé d'Arkin. Il a reçu un coup de couteau quelques minutes plus tôt, et nous avons pu ainsi nous détendre, voire le croire mort, jusqu'à ce qu'il ressurgisse soudain tel un diable sortant de sa boîte. N'est guère rassurant. Alors vous restez assis là. Votre cerveau de 747 tourne à plein régime, mais il ne reçoit presque aucune information. Il ne vous reste plus qu'à transpirer et à espérer que les lumières vont se rallumer, ce qu'elles finissent par faire, heureusement. Mike Cantalupo m'a raconté qu'il avait vu seul dans la nuit, dans une salle si minable, que même les ampoules des panonceaux exit étaient cassées. Ça devait être vraiment dur. Cette conversation avec Mike m'a rappelé un autre film, Le Désosseur, de William Castle, qui avait utilisé un truc du même genre, mais un truc infiniment moins classe, ce qui n'a rien d'étonnant de sa part. Castle, que j'ai déjà évoqué à propos de Macabre, que mes petits copains de l'époque avaient rebaptisé Macbeth, rappelez-vous, était le roi du gimmick cinématographique. C'était lui l'inventeur de l'assurance sur la peur, par exemple. Si un spectateur mourait de peur en regardant un de ses films, ses héritiers recevaient la somme de 100 000 $. Puis il a eu l'idée d'engager des infirmières pour superviser la projection de ses films, toujours en cas de malheur. Ensuite, il a exigé que les spectateurs se fassent prendre l'attention avant d'être autorisés à voir son nouveau chef-d'œuvre de l'horreur. En l'occurrence, un film intitulé « La nuit de tous les mystères ». J'en passe, c'est des meilleurs. Les détails de l'intrigue du Désosseur, un film au budget si ridicule que le producteur a dû rentrer dans ses frais à partir du 1000e spectateur, sont sortis de ma mémoire. mais je me rappelle qu'il y figurait un monstre, le picoteur, qui se nourrissait de la terreur. Quand ses victimes étaient terrifiées au point d'en rester sans voix, il se collait à leur colonne vertébrale et... il les picotait à mort. Je sais que ça a l'air débile dit comme ça, mais dans le film, ça marchait plutôt bien. Enfin, j'avais 11 ans à l'époque. Je me souviens qu'une jolie fille s'est retrouvée attaquée par le picoteur dans une baignoire. Dur. Mais au diable l'intrigue du film. Parlons de son gimmick. À un moment donné, le picoteur s'introduit dans une salle de cinéma, tue le projectionniste et réussit à couper l'électricité. Et dans la salle où vous êtes en train de regarder le film, toutes les lumières s'éteignent et l'écran devient tout noir. Mais vous avez appris un peu plus tôt que si jamais le picoteur vous attaque, il vous suffit de pousser un hurlement pour vous débarrasser de lui. Ça fait tourner l'adrénaline dont il se nourrit, ou quelque stupidité de ce genre. Et voilà qu'une voix sort des haut-parleurs. « Le picoteur est entré dans cette salle. Peut-être qu'il est sous votre fauteuil. Alors hurlez, hurlez, hurlez pour échapper à la mort. » Les spectateurs étaient ravis d'obtempérer, bien entendu. Et la scène suivante nous montre le picoteur en train de fuir pour échapper à la mort, provisoirement vaincu par tous ces spectateurs hurlants. Outre les films qui, dès leur titre, annoncent la couleur, si je puis dire en parlant de ténèbres, plus de la moitié des œuvres figurant sur ma petite liste utilisent à fond la peur du noir. La nuit des masques de John Carpenter se déroule presque totalement après le crépuscule. Idem pour les scènes les plus terrifiantes de Psychose. Dans « À la recherche de Monsieur Goodbar », l'horrible dernière scène, ma femme a foncé vers les toilettes, persuadée qu'elle allait vomir, celle où Tom Berenger poignarde la malheureuse Diane Keaton, prend place dans son appartement obscur, à peine illuminé par des éclairs stroboscopiques. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance des ténèbres dans Alien. Dans l'espace, personne ne vous entend hurler, disait la publicité de ce film. Elle aurait tout aussi bien pu dire « Dans l'espace, il est toujours minuit une. » L'aube ne se lève jamais dans ces abîmes interstellaires lovecraftiens. Hill House suscite la peur en permanence, mais elle garde ses effets les plus redoutables, le visage dans le mur, les portes qui s'enflent, les bruits de canon, la chose qui prend la main d'Eleanor. Elle croyait que c'était Théo, mais ce n'était pas elle. Pour la tombée de la nuit. C'est un autre employé d'Everest House, Bill Thompson, qui me sert de directeur littéraire depuis un bon millénaire. Peut-être que j'étais son directeur littéraire dans une vie antérieure et maintenant il se venge, qui m'a rappelé la nuit du chasseur. Et, mea culpa, j'avais bien failli l'oublier, et m'a dit que parmi les scènes d'horreur qu'il avait marquées durant des années, figurait celle où on voit les cheveux de Shelley Winters flotter dans l'eau après que le prédicateur homicide l'a noyé dans la rivière. Tout ceci se passe pendant la nuit, bien entendu. Il existe une ressemblance intéressante entre une scène de La nuit des morts vivants, celle où la petite fille tue sa mère à coups de binette, et la dernière scène des oiseaux, où Tippi Hedren, enfermée dans un grenier, est attaqué par des corbeaux, des moineaux et des mouettes. Ces deux scènes sont des exemples classiques de l'utilisation sélective de l'ombre et de la lumière. Nous avons tous appris durant notre enfance que l'abondance de lumière avait le pouvoir de chasser toutes sortes de terreurs imaginées, mais que la lumière à petite dose ne faisait que les renforcer. Rappelez-vous le réverbère qui transformait les branches d'un arbre en doigts griffus, ou le clair de lune qui métamorphosait le tas de jouets dans le placard en une chose prête à nous attaquer d'un instant à l'autre. Durant la scène de matricide de « La nuit des morts vivants », qui, tout comme la scène de la douche dans Psychose, nous semble interminable la première fois que nous la voyons, tellement elle est choquante, la fillette tape sur une ampoule suspendue à un fil, et la cave devient un paysage cauchemardesque peuplé d'ombres mouvantes, qui tantôt cache les choses et tantôt les révèle. Lorsque les oiseaux attaquent Tippi Hedren dans son grenier, c'est la lampe torche de celle-ci qui assure cet effet stroboscopique. que j'ai déjà évoqué à propos de la dernière scène d'À la recherche de M. Goodbar, et que l'on retrouve, utilisé de façon aussi irritante qu'arbitraire, durant le monologue incohérent de Marlon Brando, à la fin d'Apocalypse Now, et qui confère à la scène un rythme des plus efficaces. Le rayon lumineux balaye d'abord le grenier avec une certaine rapidité, Miss Edren utilisant sa lampe pour chasser les oiseaux, mais à mesure qu'elle perd ses forces et sombre dans la conscience, ce ray de lumière se fait de plus en plus lent, tombe doucement vers le sol. Et il n'y a plus que le noir, et au sein des ténèbres, le sinistre bruissement d'une multitude d'ailes. Je pourrais poursuivre cette analyse en déterminant le quotient de ténèbres de tous ces films, mais je n'irai pas jusque-là, et me contenterai de faire remarquer que, même dans les rares films placés sous le signe de l'horreur en plein soleil, on trouve quantité de moments de terreur se déroulant dans le noir. C'est dans l'obscurité que Geneviève Bujold grimpe au-dessus de la salle d'opération dans Mort suspecte. C'est dans l'obscurité qu'Ed, John Voight, escalade la falaise, un peu avant la conclusion de Délivrance. Sans parler de la tombe pleine d'os de chacal dans La Malédiction, ni de la découverte du mémorial aquatique de la petite sœur dans Démentia 13, le premier film de Francis Ford Coppola. Une production AIP. Mais avant de tourner la page, voici encore une petite liste. La Force des Ténèbres. Night of the Lepus. Dracula, Prince des Ténèbres. The Black Pit of Dr. M. The Black Sleep. Black Sunday. The Black Room. Black Sabbath. Dark Eyes of London. The Dark. Au cœur de la nuit. Night of Terror. Night of the Demon. Nightwing. Night of the Eagle. Vous avez sans doute compris. Si les ténèbres n'avaient pas existé, les cinéastes d'horreur auraient été obligés de les inventer. 10. Il y a sur ma petite liste un film que je me suis jusqu'ici abstenu de mentionner, en partie parce qu'il est l'antithèse de ceux que nous venons d'évoquer, l'horreur y trouve sa source dans la lumière plutôt que dans les ténèbres, mais aussi parce qu'il nous conduit tout naturellement à une brève discussion d'un des effets que le film d'horreur mythique s'efforce d'avoir sur le spectateur. Nous savons tous ce qu'est la révulsion, un résultat facile à obtenir chez tout sujet normalement constitué. Mais c'est seulement dans le cinéma d'horreur que la révulsion, cette pulsion émotionnelle des plus infantiles, accède parfois au niveau de l'art. J'entends déjà certains d'entre vous protester qu'il n'y a rien d'artistique dans le fait de chercher à faire vomir son prochain. Il suffit pour cela de mâcher une bouchée de viande et de se tourner vers lui en ouvrant la bouche. Mais que dire alors des œuvres de Goya, ou des boîtes à cirage et des soupes en conserve d'Andy Warhol, d'ailleurs. Même le pire des films d'horreur parvient à se distinguer sur ce terrain. L'autre jour, alors qu'il me passait un coup de fil, Dennis Etchison a échangé avec moi des souvenirs émus sur une séquence du film « L'invasion des araignées géantes », où une dame déguste un cocktail de vitamines, ignorant qu'une araignée bien ventrue est tombée dans le mixeur, juste avant qu'elle ne le mette en marche. Miam miam. Dans un film nullissime intitulé « La nuit des vers géants », on trouve un moment inoubliable, pour les 200 personnes qui ont vu ce navet, je veux dire, où une jeune femme, en train de prendre une douche, lève la tête vers le pommeau, d'où l'eau a cessé de couler, et y découvre un boisseau de chenilles grouillantes. Dans Suspiria de Dario Argento, des écolières se retrouvent sous une pluie d'asticots, et à la table du dîner par-dessus le marché. Cette scène n'a aucun rapport avec l'intrigue du film, mais elle est vaguement intéressante dans son genre. Dans Maniac, réalisé par William Lustig, ex-cinéaste de porno soft, on trouve une scène incroyable où le psychopathe de service, Joe Spinell, scalpe soigneusement une de ses victimes. La caméra ne se contente pas de filmer la scène. Elle la fixe d'un œil morne et contemplatif et la rend presque insoutenable. Comme je l'ai remarqué plus haut, les bons films d'horreur opèrent fréquemment à ce niveau. Aussi primitif que répugnant, je vous l'accorde, je serais tenté d'appeler ça le facteur Burke, ou encore le facteur « Oh mon Dieu, c'est dégueulasse !» C'est là que la plupart des bons critiques conservateurs et des bons critiques libéraux entrent en désaccord relativement au cinéma d'horreur. Voir par exemple le traitement accordé à Zombie par Lynn Minton dans McCall's. Elle est sortie de la salle après les deux premières bobines. Et par The Boston Phoenix, qui lui a consacré la couverture de son cahier culturel. À l'instar de la musique punk, le film d'horreur répugnant tire sa valeur artistique de son anarchie infantile. La scène de la malédiction où le photographe est décapité par un panneau de verre relève d'une conception de l'art plutôt bizarre. Et on ne peut pas en vouloir à certains critiques de préférer à ce genre de machin des films comme Julia, où Jane Fonda tente désespérément de nous faire croire qu'elle interprète le personnage de Lillian Hellman. Mais la révulsion relève de l'art, et il est important que nous le comprenions bien. Il arrive que les spectateurs restent impassibles même lorsque l'écran regorge de sang. D'un autre côté, s'ils ont été amenés à aimer et à comprendre les personnages, voire seulement à les apprécier, à voir en eux des êtres de chair et de sang, si l'auteur a réussi à les toucher, ils ne peuvent pas ne pas réagir quand le sang commence à couler. Je ne connais personne, par exemple, qui n'ait pas eu l'air assommé à coups de marteau en sortant de la projection de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn ou de la Horde sauvage de Sam Peckinpah. Et pourtant, certains films de ce dernier, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, La Croix de fer, n'arrachent que des bâillements à leurs spectateurs. Le contact ne s'est pas fait. Tout ceci est bel et bon, et personne ne contestera la valeur artistique d'un film comme Bonnie and Clyde. Mais revenons quelques instants à la purée arachnéenne de l'invasion des araignées géantes. Si cette scène relève, à mon avis, de l'art, ce n'est pas parce qu'un lien s'est forgé entre le personnage et nous. Croyez-moi, nous n'avons aucun intérêt pour la dame qui boit son jus d'araignée, pas plus que pour les autres personnages de ce film d'ailleurs, mais nous éprouvons néanmoins un certain frisson, car les doigts malhabiles du cinéaste ont réussi à trouver une faille dans notre armure, à toucher un de nos points de pression psychique. Si nous nous identifions à cette malheureuse, cela ne doit rien à sa personnalité. Mais elle nous apparaît subitement comme un être humain, en proie à une situation insoutenable en d'autres termes. La révulsion est l'ultime recours du processus d'identification que l'on emploie lorsque toutes les tentatives de caractérisation ont échoué. Quand cette dame boit son cocktail à l'araignée, nous frissonnons avec elle et réaffirmons ainsi notre propre humanité. Ceci dit, examinons à présent l'horrible cas du Dr X, un des films d'horreur les plus intéressants et les plus excentriques jamais tournés, et dont la scène finale est une des plus répugnantes jamais imaginées. Ce film de 1963 a été produit et réalisé par Roger Corman, lequel était à l'époque en pleine métamorphose. La chenille qui nous avait donné des films aussi médiocres que L'attaque des crabes géants et La petite boutique des horreurs, qui voyait sans doute les débuts de Jack Nicholson à l'écran, mais n'était pas mémorable pour autant, allait bientôt devenir le papillon responsable d'œuvres aussi superbes qu'horrifiques comme L'halluciné et Le masque de la mort rouge. C'est à mon avis avec l'horrible cas du Dr X que la créature a commencé à émerger de son cocon. Le scénario de ce film est dû à Ray Russell, auteur de Sardonicus et d'autres romans, parmi lesquels il faut citer Incubus, plutôt mélodramatique, et Princess Pamela, nettement plus réussi. Dans l'horrible cas du Dr X, Ray Milland interprète un savant qui a découvert des gouttes pour les yeux, lui permettant de voir à travers les murs, les vêtements, les cartes à jouer. Bref, à travers tout ce que vous voulez. L'équivalent chimique des lunettes à rayons X tant vantées dans les pubs pour gogo des années 1950. Mais le processus, une fois enclenché, ne s'arrête pas si facilement. Les yeux de Milland commencent à s'altérer, devenant tout d'abord injectés de sang, puis virant peu à peu au jaune bilieux. C'est à ce moment-là que nous commençons à nous inquiéter sérieusement. Peut-être parce que nous sentons venir l'inévitable, et en un sens, il est déjà trop tard. Les yeux sont une des parties les plus vulnérables de l'individu, une faille dans son armure de chair. Imaginez par exemple que vous plongez le pouce dans l'œil de votre prochain, que vous le sentez sur le point d'exploser. Répugnant, non ? De telles idées sont immorales. Mais quand vient Halloween, les petits-enfants se livrent à un jeu que l'on appelle le jeu du mort. Ils se passent dans l'obscurité des grains de raisin soigneusement pelés, en entonnant d'une voix solennelle « Voici les yeux du mort !» Burke. Ah oui, Burke. Ou, comme le disent mes gosses, « Des gueux !» Et nous avons tous des yeux, pas vrai? Même notre vieux pote l'Ayatollah Khomeini en a une paire, tout comme il a un nez et deux oreilles. Sauf que, à ma connaissance, personne n'a tourné un film d'horreur sur un nez incontrôlable. Et il n'existe aucun film intitulé « The Crawling Ear », alors que « The Crawling Eye » est sorti en 1958. Nous savons tous que les yeux sont les plus vulnérables de nos organes des sens, les parties les plus vulnérables de notre visage, et en plus ils sont « burk », tout mou. C'est peut-être le pire. Si bien que lorsque Milande chose des lunettes noires à la moitié du film, nous commençons à nous demander ce qui se passe derrière leur verre. En outre, il se produit autre chose, quelque chose qui augmente considérablement la valeur artistique de l'horrible cas du docteur X. Ce film devient carrément lovecraftien, mais cette influence s'exerce de façon différente et bien plus pure que dans Alien. Les grands anciens, nous dit Lovecraft, ont été exilés de notre monde, et leur seul désir est d'y revenir. Et ils ont accès à des sources d'énergie si puissantes que le simple fait de les entrevoir peut conduire un mortel à la démence, si puissante que l'explosion d'une galaxie serait risible en comparaison. Je pense que c'est une de ces sources que Milande commence à entrevoir à mesure que sa vue devient inexorablement plus perçante. Il ne voit tout d'abord qu'une lueur irisée au sein des ténèbres, le genre de truc qu'on voit lors d'un trip au LSD. Rappelez-vous que Corman a également commis The Trip, dont Jack Nicholson a coécrit le scénario, et Les Anges Sauvages, où l'on voit Bruce Dern, à l'article de la mort, s'écrier « Quelqu'un peut-il me filer une cigarette normale ?» Bref, cette masse de lumière devient de plus en plus grande, de plus en plus nette. Et peut-être qu'elle est vivante, et qu'elle se sait observée. Milande a réussi à voir par-delà les murailles du monde, et ce qu'il a vu l'a rendu fou. Cette force cosmique finit par devenir si claire à ses yeux qu'elle emplit l'écran lors des scènes perçues de son point de vue. Une masse monstrueuse et éclatante qui persiste néanmoins à rester floue. Et Milande finit par craquer. Il prend sa voiture et fonce dans le désert, avec au-dessus de lui cette présence lumineuse, et lorsqu'il ôte ses lunettes, nous découvrons des globes oculaires d'un noir d'encre. Il hésite un instant, puis s'arrache les yeux. Le film s'achève sur la vision de ces deux orbites sanguinolentes. Mais à en croire certaines rumeurs, fondées ou non je l'ignore, la dernière réplique du film a été coupée au montage, car jugée trop horrible. Si tel est le cas, il s'agissait de la conclusion la plus logique que l'on puisse imaginer. D'après la rumeur, Milande s'écrie après son acte « Je vois encore !» 11. Nous n'avons fait que tremper le bout des doigts dans le profond océan mythique de l'expérience et des terreurs humaines. Il nous serait possible de poursuivre en évoquant des phobies aussi diverses que la peur des hauteurs, sueur froide, la peur des serpents, snake, la peur des chats, les griffes de la peur, la peur des rats, Willard, Ben, sans parler de tous les films qui tirent leurs effets de la révulsion, et des mythes que nous n'avons pas encore abordés. Mais il nous faut bien garder quelque chose pour la suite, pas vrai? Et quels que soient les sujets que nous abordons, nous finirons toujours par revenir à cette notion de point de pression phobique, tout comme la plus charmante des valses dépend en dernière analyse de la simplicité de ces trois temps. Le film d'horreur est une boîte pourvue d'une manivelle, et pour le faire fonctionner, il suffit de tourner cette manivelle jusqu'à ce que le diable jaillisse de sa boîte, une hache à la main et un rictus meurtrier aux lèvres. Tout comme le sexe, il s'agit là d'une expérience infiniment désirable. Mais toute discussion de ses effets finit invariablement par engendrer la monotonie. Plutôt que d'explorer 100 fois le même terrain, achevons donc ce bref exposé sur le film d'horreur mythique par une visite de son site le plus remarquable, la mort. Voilà bien l'atout maître de tous les films d'horreur. Mais les cinéastes ne jouent pas cette carte à la manière d'un champion de bridge, qui en comprendrait toutes les implications et toutes les possibilités les plus fructueuses. Ils l'utilisent plutôt comme un enfant jouant à la bataille. En fait, c'est là que résident à la fois les limites du cinéma d'horreur, considéré en tant qu'œuvre d'art, et son charme à la fois morbide et captivant. La mort, c'est quand les monstres vous attrapent, songe le jeune Marc Petry dans mon roman Salem. Et si je devais résumer en une phrase tout ce que j'ai pu dire ou écrire sur l'horreur, et pas mal de critiques me reprocheront de ne pas l'avoir fait, ce serait sûrement celle-ci. Ce n'est pas ainsi que les adultes regardent la mort. C'est là une métaphore grossière qui ne tient guère compte du ciel, de l'enfer, du nirvana, ou de cette fameuse roue karmique qui nous garantit à tous une seconde chance. Ce point de vue, qui est celui qu'adopte la plupart des films d'horreur, n'a rien à voir avec les spéculations philosophiques sur la vie après la vie, et ne concerne que l'instant crucial où nous quittons cette vallée de larmes. Cet instant où vient la mort est le seul rite de passage authentiquement universel, le seul à avoir des suites qu'aucune donnée psychologique ou sociologique en notre possession ne nous permet d'expliquer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on s'en va. Et bien que nous disposions de certaines règles, oserais-je dire d'une certaine étiquette relative à ce sujet, le moment crucial nous prend bien souvent par surprise. Les gens décèdent en faisant l'amour, en prenant l'ascenseur, en nourrissant un parc-maître. Certains s'en vont en éternuant. D'autres encore meurent au restaurant ou dans un hôtel de passe, voire parfois aux toilettes. On n'est jamais sûr de mourir dans un lit ou les bottes aux pieds. Il serait donc bien remarquable que nous n'ayons pas un peu peur de la mort. Celle-ci est bien présente, n'est-ce pas? Le facteur irréductible de notre existence, la mère sans visage d'une centaine de religions, si absolue et si incompréhensible qu'on n'en discute jamais dans les cocktails. La mort devient un mythe dans les films d'horreur, mais il convient de souligner que ceux-ci la mythifient de la façon la plus simple possible. La mort dans les films d'horreur, c'est quand les monstres vous attrapent. Nous autres, fans de cinéma d'horreur, nous avons vu des gens se faire tabasser à mort, périr sur le bûcher. Vincent Price dans le rôle-titre du Grand Inquisiteur, une production AIP qui est sûrement un des films d'horreur les plus répugnants des années 1960, finit sa carrière par un barbecue. Se faire cribler de balles, de coups de couteau, se faire crever les yeux à coups d'aiguille, se faire dévorer vivant par des sauterelles, des fourmis, des dinosaures et même des cafards. Nous avons vu des gens décapités, La Malédiction, Vendredi 13, Maniaque, vidés de leur sang, dévorés par des requins. Qui pourrait oublier le bateau pneumatique qui s'échoue sur la plage, déchiré et ensanglanté dans les dents de la mer? Ou des piranhas? Nous avons vu des méchants engloutis par des sables mouvants ou dans des bacs d'acide. Nous avons vu notre prochain écrabouillé ou gonflé comme une baudruche. À la fin de Fury, le film de Brian De Palma, John Cassavetes explose littéralement. Les critiques libéraux, qui ont de la civilisation, de la vie et de la mort une conception plus complexe, ont tendance à faire la moue devant ce genre de massacre gratuit, à le considérer, au mieux, comme l'équivalent moral de l'arrachage des ailes de mouche, et, au pire, comme la mise en scène symbolique d'une exécution publique. Mais la première de ces comparaisons mérite qu'on s'y attarde. Rares sont les enfants qui n'ont jamais arraché les ailes d'une mouche ou qui n'ont jamais observé patiemment l'agonie d'un insecte. La première scène de la horde sauvage nous montre un groupe d'enfants rieurs en train de faire périr un scorpion par le feu. Une scène caractéristique de ce que les gens qui n'aiment pas ou ne connaissent pas les enfants appellent souvent à tort la cruauté de l'enfance. Les enfants ne sont presque jamais délibérément cruels, et ils ne se livrent pratiquement jamais à la torture, dans l'acception qu'ils ont de ce terme. Ils sont toutefois capables de tuer par désir de s'instruire, étudiant l'agonie d'un insecte avec l'attention clinique d'un biologiste étudiant un cobaye venant d'inhaler une bouffée de gaz toxique. Rappelons-nous Tom Sawyer, qui faillit se casser le cou tant il était impatient de voir le chat mort de son ami Huck, et qui, pour avoir eu le privilège de nettoyer sa barrière, obtint pour récompense un rat mort et une ficelle pour le balancer au bout. Autre exemple. Bing Crosby raconte que son fils, âgé de 6 ans, était inconsolable à la mort de sa tortue. Désireux de le distraire de son chagrin, Bing lui a suggéré d'organiser un service funèbre, et son fils a accepté en rechignant un peu. Tous deux ont pris une boîte à cigares, en ont doublé l'intérieur avec un carré de soie, l'ont peint en noir, et ont creusé un petit trou dans leur jardin. Bing plaça alors soigneusement le cercueil dans la tombe, récita une longue et émouvante prière et chanta un hymne. Au terme de la cérémonie, les yeux du petit garçon étaient luisants de chagrin et d'excitation. Bing lui demanda alors s'il voulait jeter un dernier regard sur sa tortue avant d'enterrer le cercueil. Son fils répondit par l'affirmative et Bing souleva légèrement le couvercle de la boîte à cigares. Tous deux contemplèrent la tortue avec révérence et soudain, elle bougea. Le petit garçon la considéra un long moment, puis se tourna vers son père et lui dit « Tuons-la !» Les enfants font preuve d'une curiosité aussi permanente qu'insatiable. Et cette curiosité ne se limite pas à la mort. Et pourquoi pas? Ils sont pareils à des spectateurs qui viennent d'entrer dans une salle où l'on projette un film dont l'action a débuté il y a plusieurs milliers d'années. Ils veulent en connaître l'intrigue, les personnages et surtout la logique interne. Est-ce un drame, une tragédie, une comédie ou bien carrément une farce? Ils n'en savent rien, parce qu'ils n'ont pas encore, mais ça viendra, reçu l'enseignement de Socrate, de Platon, de Kant ou d'Éric Segal. Quand on a 5 ans, on a des gourous qui s'appellent le Père Noël et Ronald McDonald. Les questions qu'on se pose sont du genre « Peut-on manger un biscuit la tête en bas ? » « Les balles de golf contiennent-elles vraiment un poison mortel ?» Quand on a 5 ans, on cherche à s'informer dans les domaines accessibles. Permettez-moi donc de vous raconter ma propre histoire de chat mort. Alors que j'avais 9 ans et demeurais à Stratford, Connecticut, 2 de mes copains, 2 frères, ont découvert le cadavre déjà raide d'un chat dans le caniveau, non loin de Barrett's Building Material, le magasin situé en face du terrain vague où on jouait au baseball. Ils m'ont appelé en consultation afin que j'éclaire de mon opinion le problème du chat mort. Le très intéressant problème du chat mort. C'était un chat gris, de toute évidence écrasé par une voiture. Ses yeux étaient mi-clos et nous avons tous remarqué qu'il semblait contenir de la terre et des particules de goudron. Première déduction, quand on est mort, on se fout d'avoir une poussière dans l'œil. Nous partions du postulat que ce qui était bon pour les chats l'était aussi pour les gosses. Nous l'avons examiné en quête d'asticots. Pas d'asticots. Peut-être qu'il y en a dedans, a dit Charlie d'une voix pleine d'espoir. Charlie faisait partie des gamins pour lesquels William Castle avait tourné un film intitulé Macbeth, et il me téléphonait souvent les jours de pluie pour m'inviter à venir chez lui et lire des bandes dessinées. Nous avons poursuivi notre examen, retournant le chat mort dans un sens puis dans l'autre, avec un bâton bien entendu. On risque d'attraper un virus ou une bactérie en tripotant un chat mort à main nue. Toujours pas d'asticots. Peut-être qu'il y en a dans son cerveau, a dit Nicky, le frère de Charlie, une lueur dans les yeux. Peut-être qu'il a des asticots qui lui dévorent le cerveau. Impossible, j'ai décrété. Le cerveau, c'est étanche. Il ne peut rien y entrer. Ils ont médité là-dessus. On a fait le cercle autour du chat mort. Puis Nicky a dit soudain « Et si on lui lâche une brique sur le cul, est-ce qu'il va chier ?» S'ensuivit un long débat sur ce point de biologie post-mortem. Il fut finalement décidé de procéder à l'expérience. On trouva une brique. On débattit sur le fait de savoir qui allait la lâcher sur le chat mort. Ce problème fut résolu de la façon traditionnelle. Le rite d'Amstramgram fut célébré. Ce fut Nicky qui gagna. La brique fut lâchée. Le chat mort ne chia pas. Déduction numéro 2. Quand on est mort, on ne chie pas si quelqu'un vous lâche une brique sur le cul. Ensuite, on a abandonné le chat pour aller jouer au baseball. L'expérience s'est poursuivie au fil des jours. Et je pense encore à ce chat mort lorsque je relis l'excellent poème de Richard Wilbur, intitulé « The Groundhog ». Les asticots ont fait leur apparition au bout de 2 jours, et nous avons observé leur grouillement avec un intérêt mêlé de répugnance.
« Ils lui bouffent les yeux !»
a fait remarquer Tommy Herpter, un autre gamin de ma rue.
« Regardez ça, les mecs! Ils lui bouffent même les yeux !»
Puis les asticots se sont fait la malle, laissant le chat mort avec quelques kilos et pas mal de poils en moins. Nous avons espacé nos visites. La décomposition du chat était entrée dans une phase moins colorée. Mais j'ai pris l'habitude d'y jeter un coup d'œil chaque matin en allant à l'école. Ce n'était qu'une halte sur ma route habituelle, un élément de mon rituel matinal, similaire à ceux consistant à laisser traîner la pointe d'un bâton sur la clôture de la maison abandonnée ou à faire quelques ricochets sur l'étang du parc. À la fin du mois de septembre, Stratford fut frappé par un ouragan. Il y eut une petite inondation, et lorsque les eaux se retirèrent 2 ou 3 jours plus tard, le chat mort avait disparu, emporté par les flots. Je ne l'ai pas oublié, et je suppose que je ne l'oublierai jamais. Ce fut ma première expérience de la mort. Ce chat n'est plus que poussière aujourd'hui, mais il est resté dans mon cœur. Un film sophistiqué exige de son public des réactions sophistiquées. En d'autres termes, des réactions d'adultes. Les films d'horreur ne sont pas sophistiqués. Et c'est pour cette raison qu'ils nous permettent de considérer à nouveau la mort avec des yeux d'enfant. Ce qui n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Je n'irai pas jusqu'à faire mienne cette idée aussi romantique que simpliste, selon laquelle les choses apparaissent plus clairement aux enfants qu'aux adultes. Mais je suggérerais néanmoins que les enfants voient les choses avec plus d'intensité. Pour les yeux d'un enfant, le vert d'une pelouse est de la couleur des émeraudes que l'on trouve dans les mines du roi Salomon, cher à H. Rider Haggard. Le bleu d'un ciel hivernal est aussi violent qu'un pic à glace. Le blanc d'une neige fraîchement tombée est une décharge d'énergie onirique. Et le noir est plus noir. Beaucoup plus noir. Voici la vérité sur les films d'horreur. Ils ne célèbrent pas la mort, contrairement à ce qu'ont pu affirmer certains. Ils célèbrent la vie. Ils ne chantent pas les louanges de la difformité, mais en nous montrant des êtres difformes, ils chantent les louanges de la santé et de l'énergie. En nous montrant les souffrances des damnés, ils nous aident à redécouvrir les joies modestes, mais jamais négligeables, de notre propre existence. Ce sont les sangsues de la psyché, et ils soulagent celle-ci de ses angoisses. Du moins pour un temps. Le film d'horreur vous demande si vous avez envie de regarder de près le chat mort, ou la forme sous le drap, pour reprendre une métaphore que j'ai employée dans l'introduction de Danse macabre, mais pas avec les yeux d'un adulte. Peu importe les implications philosophiques de la mort, ou les possibilités religieuses inhérentes au concept de vie après la vie, le film d'horreur nous propose de jeter un coup d'œil à la mort en tant qu'artefact physique. Devenons donc des enfants déguisés en médecins légistes. Et comme des enfants faisant une ronde, tenons-nous par la main et entonnons ce chant que nous connaissons tous par cœur. Le temps presse, tout le monde est malade, la vie est brève et la mort est là. Oméga, tel est le chant du film d'horreur. Voici la fin. Mais le symbole qui sous-tend tous les bons films d'horreur est le suivant. Pas encore, pas cette fois-ci. En dernière analyse, le film d'horreur célèbre les êtres humains qui ont la force de regarder la mort en face, parce qu'elle ne demeure pas encore en leur cœur.